Nous allons commencer tout de suite donc la conversation avec Mathieu Riboulet, menée par trois étudiants du master.
Bonjour. On va commencer cet entretien par une lecture qui a été écrite à sept paires de mains, donc par le groupe de préparation pour cet entretien donc du master des métiers de l'écriture de Toulouse. Donc ce texte a été écrit par Thibaut Antoine, Kevin Enoch, Quentin Dessault, Solon Caboy, Margot Cusin, Nemo von de Gucht, Louis-Alexandre Borel.
Et toi.
Huit paires de mains, exactement. Aux lisières du temps, des héritages, les corps, toujours et déjà là, se répondent en un regard. Ils s'effleurent d'un désir, cherchant la mesure des mots à poser sur les contours de l'insensé, sur le papier de leur peau qui enveloppe le poids d'un secret.
Ce même secret inné qui fait corps avec nos vies intimes, celui-là même qui nous pousse sur les sentiers au hasard des rencontres.
Il semblerait alors que ce secret-là, scellé à la cire de nos cicatrisations inconscientes, qu'un homme seul ne saurait s'avouer, s'ouvre dans le partage, dans le regard de soi que l'on pose sur l'autre, dans cette appétence de peau, de vif, de tiède, comme la signature d'un pacte avec le vivant.
Alors le corps n'est plus seulement l'actant d'à côté lorsqu'il prend part à ce que l'esprit ne peut déceler, cinglé sur le seuil de la réflexion.
La place de l'impensé,
fluide, sombre, sanguin courant les sillons de nos veines, monceau de tâtonnements ramassés dans le creux que forment nos côtes lorsqu'elles tentent de se saisir de ce qui surgit sans se dire.
Ce réel impalpable, semblant avoir été taillé à notre insu pour que nos corps, sans le savoir ni peut-être même le vouloir, y prennent place et parfois y trouvent grâce.
Flux qui, à travers la nuit des temps, monte, recouvrant les angles vifs et marqués de nos corps d'un voile de soupçons et de doutes, à travers l'aube des corps qui s'éveillent, des limites qui s'estompent, des rugissements de l'instant qui émerge.
Corps impensés, traversés par ces courants les dévêtant d'eux-mêmes, qui pulsent et creusent les reins, les offrant, soulèvent le diaphragme qui se verrait bien faire voler la carcasse, couche après couche.
Soulever le rideau des carcans intimes, des séquestrations inconscientes, historiques, sociales et politiques.
Ce rideau qui sépare les morts des vivants, visages couverts des mêmes plis insondables.
Nous, réceptacles d'os et de chair aux encoignures friables et cassantes, laissant pour un temps, derrière le rideau, un peu du poids de notre peau pour s'étoffer de l'autre.
Ouvrir les marges de nos conditionnements acérés, de nos subjectivités vivaces mais parfois encombrées, espérer les canaliser.
D'abord un peu pour soi, puis vers l'autre, peut-être enfin pour dire un peu au monde.
Ouvrir les marges de nos corps.
S'ouvrir pour se penser de port en port.
Être une singularité pétrie de multiplicité.
Une marge donnant à lire ce qui n'a pas été écrit, ce qui entre les blancs comme entre les plis et les bords, se perçoit, se respire, se transpire.
Entités mouvantes et entr'ouvertes, à la recherche de ce qui se tisse, comme autant de cuisses s'ouvrant puis se refermant inexorablement sur d'autres.
Comme autant de fils qu'il faut tirer puis tenter de tisser pour que le rideau soit de nouveau soulevé, sous le regard attentif et constamment déplacé, soufflant ses élans à la jeune chair débordante.
Nous en étions là, basculés dans les rouages d'une écriture à crémaillère qui ne saurait concéder aucun retour, chaque phrase avançant le long de crans métalliques rivés à la surface d'un corps à explorer, à circonvenir. L'engrenage Riboulet avançait, et nous avec, sans autre choix que d'accomplir notre travail de lecteur, d'aller de l'avant, tout comme les personnages de ces livres pour qui, de l'enfance à la maturité, il n'existe d'autre voie que celle douloureuse, inexorable, de la compréhension et du sensible. Procédant par appui, ancrage successif, la langue de Mathieu s'achemine jusqu'à des rebords d'où il sera possible, dans un même mouvement, de se libérer des lourdeurs du corps et du poids de l'histoire tout en leur faisant front. Nulle posture ici, ou art de l'esquive, mais au contraire une écriture se nourrissant, pour mieux les combler, des appels d'air et de vide qu'ont laissé derrière eux la séparation des êtres ainsi que les zones désaffectées de l'histoire.
On fait partie du problème ou de la solution. Entre les deux, il n'y a rien. Ulrich et Meinhof avaient choisi son camp, celui de la fraction armée rouge. Près de 40 ans après sa mort, Mathieu Riboulet, lui, poursuit de défendre le sien, mais plutôt que les bombes. C'est à coups de jets d'encre et de sperme, avec la même colère dans le geste et la même joie à l'écrasement qu'un jet de pierre, avec les mains, avec la queue, déversée sur le papier, dans les culs, dans les bouches, toujours finir dans les corps des autres. Ce corps qui est notre réduit et notre liberté. Le corps comme moyen et comme incarnation, les corps qui ouvrent les portes vers l'Europe des années 70, au cours desquels les héritiers des infamies du siècle rougissaient de honte face à leur butin. À l'instar d'un Pasolini qui se voyait comme un chat qui ne veut pas crever, Mathieu Riboulet réinscrit le nom noir sur blanc de ceux pour qui le rouge a coulé. Rusant comme les renards, se terrant comme les cafards, se faufilant comme l'anguille, morts comme des chiens, leurs noms qui sont nouvellement ou à nouveau livrés, le sont à titre d'hommes qu'ils étaient. Mathieu Riboulet mène sa politique du corps et a commencé par la vue. C'est de ses cinq sens qu'il flirte avec leur lisière. Le lire, c'est toucher quelque chose ou quelqu'un, c'est entrer quelque part, et entre les lignes, ce n'est pas rien.
Et nous en étions là avec toi, Mathieu. Puisqu'il nous reste, une fois tes livres refermés, l'impression que tes mots offrent autant une résidence sensible, un habitat, une cabane, nous vivons ton écriture comme une ressource pour répondre à notre époque par une présence.
Elle est celle du langage qui vibre dans la jonction des chairs, mais aussi peut-être surtout celle de la responsabilité laissée à chacun de porter une part sur ce qui nous relie tous, et donc essentiellement la responsabilité des moyens que nous choisissons pour nous rejoindre.
Tes mots et leur adresse, immergés dans les corps, dans tous ces points d'origine, nous rappellent que l'altérité est, nécessairement, la matière dure et large d'un accueil et non d'un retranchement.
Mais alors, on rentre dans le corps de l'autre pour y faire quoi si ce n'est pour s'y retrancher?
Pour que de quelques gestes esselés puisse naître une action commune, pour que nos collisions fassent fracture au-delà d'elles-mêmes, pour prendre sensation, pour prendre territoire.
La rencontre exhume non une vérité, mais un ensemble de particularismes dont il s'agit de s'emparer et à qui nous devons de redonner présence. Nous rentrons dans le corps de l'autre pour y essayer l'exigence d'une politique.
D'un amour,
d'une baise à
hauteur de notre souci du monde.
Alors Mathieu, tu disais hier lors de la table ronde sur ton livre à la lecture que tes histoires, tes romans subissaient d'abord une période de gestation qui se devait d'arriver à terme pour ne pas être avortée ou du moins pour survivre à sa propre naissance. Alors je me demande alors si ce jaillissement, ces contractions d'écrivain, laissaient encore une place pour l'imprévu et l'impensé au moment de la rédaction.
Alors, d'abord, merci beaucoup pour ce texte que j'avais lu, mais c'est tout autre chose de l'entendre naturellement devant un public. Voilà, merci beaucoup à vous. Cette période de la gestation du livre qui est effectivement quelque chose de très particulier, moi en forçant un petit peu le trait, j'ai toujours envie de dire qu'elle se passe toujours au-dessus de moi, quoi, et presque en dehors, ce serait inexact, mais très largement au-dessus, et sur un terrain ou dans une atmosphère dont je ne sais à peu près rien et dont d'ailleurs je pense que je n'ai pas envie de trop savoir quoi que ce soit. Et donc j'ai des simplement quelques points comme ça de repère sur cette espèce de territoire très flou sur lequel je vais tenter d'agréger quelque chose ou en tout cas de voir si quelque chose s'agrège avec le fil du temps et si le quelque chose en question persiste. S'il s'étoffe, s'il devient une espèce d'entité qui commence à s'organiser ou que les deux ou trois points d'achoppement se mettent à dialoguer ou à circuler ensemble. Et ensuite, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est le moment très délicat de la décision de commencer le texte qui intervient, parce qu'il faut être sûr que ceux qui s'agrègent dans le flou soient suffisamment formés pour que le livre entier puisse en découler ensuite. Parce que si on s'y prend trop tôt et que l'agrégation n'est pas suffisante, le livre ne sortira pas d'un trait, et s'il ne sort pas d'un trait, il ne sort pas, en fait. Voilà. Et donc je préfère le faire au bon moment, mais ce n'est pas toujours facile. Et donc, en fait, pour revenir à la question de l'impensé, c'est un peu paradoxal, parce que, évidemment, écrire un livre, c'est essayer d'organiser justement un peu de pensée. Mais il me semble évidemment que, même si j'enfonce une porte ouverte, excusez-moi, mais que le penser qu'on va tâcher de former ne peut pas se penser sans l'impensé qui le précède, qui l'entoure et auquel il retournera.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Nemo, dans ton écriture, tu parles, le dévoilement est quelque chose de très présent, une sorte de rideau qu'il faudrait soulever pour mettre à jour des refoulés ayant pris marque à travers une histoire, qu'elle soit individuelle et ou collective. Et donc ce dévoilement, il prend souvent l'aspect d'une fouille, d'une plongée dans la mémoire, mais aussi d'une sorte de retranchement qui s'incarne finalement en un accueil très sensible. Et je me suis demandé, quand tu es à la table, au travail à la table, comment ces surgissements sensibles interviennent en fait ? Comment il est physiquement reçu ? Est-ce que. De quelle manière il influe, en fait, le travail quand tu es à la table.
Marie-Hélène Lafont parle d'établi quand elle, pour désigner l'endroit où elle travaille. J'aime bien cette image-là parce que le côté artisanal est mis en valeur. Et c'est important aussi à dire parce que la question du corps de l'écrivain au travail, même si elle n'est pas forcément primordiale et elle n'a pas forcément à rentrer en ligne de compte comme ça dans une exégèse ou dans un commentaire, mais quand même elle n'est pas non plus anodine, surtout qu'il me semble qu'elle n'est pas très souvent traitée. Et donc il y a en effet une question de posture et une question et que ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire de la place que l'écrivain doit occuper et de la distance qu'il doit déterminer par rapport à l'objet qui se propose de traiter, cette question de la distance et de la place, elle se traduit évidemment physiquement par la place. Alors c'est pas une question de régler à 3 cm, etc. Mais c'est que simplement le corps de l'écrivain quand il travaille, il est en permanence dans la tension, mais qui n'est pas une tension délétère du tout, qui est au contraire une tension extrêmement joyeuse. Mais le corps tendu devient du coup une surface où le moindre accident ou le moindre surgissement, pour reprendre l'expression que tu employais, résonne immédiatement ou vient rebondir. C'est-à-dire qu'il faut être en permanence, en fait, la tension permanente du corps de l'écrivain au travail, elle fait que tout ce qui passe aux alentours, dans la tête, mais pas seulement dans la tête, à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, tout va rentrer en ligne de compte et tout est susceptible, toujours, à tout moment, de faire sens et de faire matière pour le texte.
Une porosité, enfin.
Oui, voilà, enfin, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un état, c'est un état d'ouverture permanent. Alors, qui est en même temps très curieux, parce qu'il y a l'état d'ouverture permanent, il est davantage en fait dans la préparation, c'est-à-dire dans ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire le moment où des choses s'agrègent, on ne sait pas trop bien comment, etc. Et là, à ce moment-là, la porosité, elle est maximale parce que parce qu'il faut, enfin, en tout cas pour moi, se laisser traverser par absolument tout ce qui passe, parce que tout est susceptible de faire sens et de nourrir. Mais ensuite, la même opération se reproduit une fois que le processus est enclenché et qu'on est vraiment dans le travail de l'écriture elle-même, quoi, dans la formation des phrases, ou simplement à attendre que quelque chose arrive parce qu'il y a une phrase qui est en suspension, ou que, bon, bref. Et à ce moment-là, c'est une porosité, mais qui est moins dans ce côté genre ouvert aux quatre vents, disons, que de simple plus là, peut-être de l'ordre de la caisse de résonance ou justement de la tension qui fait que le moindre impact sur le corps tendu fait immédiatement réponse, quoi. Et il y a aussi juste pour terminer avec ça, le fait que la posture de l'immobilité, l'image de on attend qu'une sorte de lumière divine vienne inspirer l'écran ou le stylo, c'est évidemment bien sûr un mythe, quoi, enfin une image d'Épinal, et que moi, il m'arrive de plus en plus souvent, par exemple, même en suspension au milieu d'une phrase, de me lever, de marcher, de faire les 100 pas, même pendant une heure, s'il le faut, et de revenir boucler la phrase après avoir fait ça, quoi. Parce que la mise en mouvement du corps, elle est absolument primordiale, parce qu'elle accompagne, elle stimule, et elle, des fois elle devance et des fois elle traîne derrière la mise en mouvement de l'esprit qui simplement formule ou tente de formuler ce qu'il a à formuler, quoi.
Mais enfin, je sais pas si c'est vraiment un souci, mais l'idée de cette porosité, c'est que quelque part, enfin, j'ai l'impression que tu n'écris justement pour ne pas te cacher. Il y a une...
Ah ben, bien sûr, c'est-à-dire que cette position de, enfin cette décision, je ne sais même pas si c'est une décision d'ailleurs, mais enfin, en tout cas cette position d'ouverture à tout vent pendant la préparation et ensuite de très grande tension, toujours pareil, ouverte pendant le truc, c'est évidemment une manière de, c'est une manière d'ouverture et c'est une manière de se placer soi-même, de se retrancher effectivement derrière aucun paravent, de se placer soi-même au centre du jeu. Enfin, effectivement, pour moi, ça passe par le, enfin, en tout cas, je le formule, disons, j'ai l'impression que ça s'incarne vraiment dans le corps, c'est-à-dire que, bah oui, non seulement il peut m'arriver de me mettre vraiment moi dans le texte lui-même, mais encore une fois, le corps écrivant, il est également entièrement en jeu, quoi. Il peut pas être en dehors, et il me semble, bon, mais c'est juste une hypothèse, puis de toute façon, c'est même pas, je peux même pas tellement le formuler, parce que à vrai dire, je crois pas que je pourrais faire autrement, donc c'est de l'ordre de presque de la, voilà, de la nécessité qui s'impose comme ça, mais il me semble que bien évidemment, cette ouverture constante, elle est la condition d'accueil de ce qui viendra après et dont je ne m'occupe absolument pas quand j'écris, c'est-à-dire du lecteur.
Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au lecteur, enfin, pour en avoir beaucoup discuté, même pendant en classe, tout ça, avoir vu la densité en fait justement de cet accueil qui était proposé et des gens qui étaient rentrés dedans, ça m'a fait penser à l'idée de, comme on t'a dit un petit peu dans le texte, de se rendre présent à l'époque, de dire présent à l'époque, et c'est pas juste se contenter de l'immédiateté de la présence, mais c'est rendre présence aux choses, et demander si on ne pouvait pas, rendre présence aux choses en prenant conscience que dans chaque acte individuel, il y a une possibilité de collectif, et que quelque part, comme tu le dis, le sexe, ça n'est pas séparé du monde. Il y a forcément une manière d'aborder le monde dans cette idée-là.
Oui, c'est bien sûr. Ça rejoint un petit peu ce que j'esquissais, je sais plus très bien hier ou ce matin sur le processus général de d'élargissement du champ, disons, d'investigation comme ça de l'écriture, de l'endroit où où de plus en plus je me sens autorisé à porter le travail, l'attention et le stylo, c'est bien évidemment une prise en compte croissante du collectif. C'est pas évidemment un événement isolé comme ça, ou simplement le fruit d'une évolution interne. C'est aussi le fruit d'une évolution collective, du monde dans lequel on vit, et du fait que la nécessité ça et là, et encore une fois sans se faire d'illusions, de former des communautés, même éphémères, même très petites, à des échelles très petites, elle ne peut se faire que, en tout cas pour moi, de là où je suis et du travail que je fais, en créant toutes les possibilités et en faisant apparaître le plus possible, ou du mieux possible, disons, les liens qui peuvent être établis entre les choses, entre les gens, entre les envies, entre les désirs, entre les réalisations, tous liens qui ont quand même beaucoup tendance dans les temps où on est à être soit carrément rompus, soit dissimulés, pour laisser l'illusion que les choses sont séparées. Et effectivement, le sens du titre du chapitre d'Entre les deux, il n'y a rien, qui s'appelle Le sexe, ça n'est pas séparé du monde, c'est vraiment ça. C'est de dire que cette question du rapport de la sexualité à la politique, disons, pour le faire un peu en ramassis comme ça, comme c'était le cas dans les années 70, et où ce lien était exprimé, exploré, dit, et qui depuis a été très largement évacué. Je pense que il suffit simplement, enfin il suffit. Façon de parler, mais enfin, en tout cas, il y a une sorte de nécessité, me semble-t-il, à le refaire apparaître, disons, ou à le retisser, et que la littérature est un des endroits, me semble-t-il, c'est pas le seul évidemment, mais c'est un des endroits où on peut le faire, de façon à ce que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la place laissée au lecteur est suffisante et suffisamment bien pensée, le lecteur puisse se saisir de ce lien et en faire son usage.
Alors justement, dans ta démarche d'écrivain, moi je me suis beaucoup intéressé à tes premiers romans, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la famille, des héritages inconscients d'une famille et d'une éducation, qui donnait donc lieu à des personnages qui étaient tantôt trimballés par leurs héritages inconscients, qui étaient assez naïfs par rapport à ça. D'autres personnages, notamment par exemple dans Les âmes inachevées, qui étaient tout à fait conscients des difficultés qu'avait engendré le manque d'amour de leur mère. Et alors je me suis demandé, si par rapport à ta démarche d'écrivain, finalement, qu'est-ce qui t'a fait quitter le corps familial pour te faire rentrer peut-être dans un corps plus historique? Qu'est-ce qui, voilà, est-ce que le fait d'avoir pris une famille et donc d'être dans la réalité peut-être d'une histoire, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller vers le cheminement de l'historique et peut-être l'approche du réel donc?
Je pense que c'est l'application assez systématique de l'adage « balayons devant sa porte ». Donc je pense que j'ai eu besoin de passer par ce travail-là, c'est-à-dire vraiment de commencer à explorer les zones d'ombre les plus proches de moi, en fait, hein, puisqu'on revient à des choses qui ont été dites ces jours-ci, c'est-à-dire qu'on écrit toujours pour balayer un silence, éclairer une zone d'ombre, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, etc. Donc ce travail-là, pour moi, il était impensable, même impossible, techniquement, tout simplement, hein, de le porter d'emblée à l'échelle collective, comme ça, à l'échelle historique. et que voilà, simplement il fallait que je commence encore une fois par balayer devant ma porte, et que ce travail-là, il a pris le temps qu'il a pris, parce que je suis pas très rapide, et puis qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire dans ces matières-là, et puis qu'il est pas évident d'ailleurs que ce soit tout à fait terminé, mais bon, c'est encore une autre question, c'est après. Mais et puis il y a des choses très bêtes qui sont de l'ordre des impératifs biologique, j'allais dire, enfin, voilà, du temps qui passe, etc. Au bout d'un moment, on dit, bon, on va pas non plus passer le réveillon pour parler trivialement sur les histoires premières. Si on les a suffisamment explorées, c'est bon, on peut tenter, encore une fois, d'élargir le cercle, de passer à un petit peu autre chose. Et il y a aussi ce phénomène que le temps passant... Pardon si j'ai l'air confus comme ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait du côté impensé du travail de préparation, etc. Il y a aussi, pendant l'élaboration des premiers livres, en tout cas pour moi ça a été vraiment comme ça, aucune perspective d'aucune sorte sur la suite, mais aucune. Alors évidemment aucun plan de carrière, mais vraiment, mais même pas l'idée d'un livre suivant celui que j'étais en train d'écrire ou celui qui venait d'être publié, quoi. Donc les choses vraiment s'ajoutent les unes aux autres avec une espèce de lenteur comme ça, complètement invraisemblable, mais c'est comme ça, il faut le suivre, il faut pas, c'est toujours la même histoire, il faut pas partir trop tôt, il faut pas partir trop tard, c'est toujours cette question de la place et du temps qui sont totalement primordiales. Et donc une fois que c'est à peu près balayé, on se dit, parce que le paysage commence à être un tout petit peu plus clair, ça sort un petit peu de la brume, et là maintenant j'ai publié déjà, je sais pas, 13 ou 14 livres, et je commence à apercevoir qu'éventuellement j'en ai deux ou trois devant moi qui sont à peu près formulés comme ça, enfin, très vaguement, hein, je vous rassure, mais disons, voilà, je me dis, tiens, peut-être qu'un jour je pourrais faire ça, voilà. Et donc tout ce processus, il est vraiment extrêmement long, extrêmement lent, et il faut pas le brusquer. Simplement, ça va dans le sens de l'élargissement, ou en tout cas j'espère. C'est pas parce que je quitte ou que je veux plus parler de tout ça et tout, c'est simplement parce que ben il faut avancer, quoi. Mm-hmm. Tout simplement.
Et en rapport justement à cet élargissement de l'histoire, une histoire plus individuelle vers une histoire plus collective, on a remarqué que dans tes œuvres plus anciennes, il y a souvent des récits effectués à la troisième personne où on suit vraiment un cheminement, voilà, psychologique intérieur d'un personnage. Et dans les œuvres plus récentes, je dirais après les œuvres de Miséricorde par exemple, on a plus l'impression d'avoir affaire à des corps, vraiment des corps poreux avec toute leur matière physique, qu'à des personnes, voilà. Un intérêt plus centré sur quelque chose d'organique, de...
Oui, c'est toute la question de la difficulté en réalité de trouver une voie juste, VOIE essentiellement. La question du personnage à créer, de la voix à lui donner et de la façon de le désigner, c'est-à-dire il, enfin bon, de l'incarner beaucoup dans les détails, etc. C'est une question d'emblée problématique, encombrante et que j'avais pas très envie de traiter. Donc j'ai essentiellement biaisé avec ça en me tenant, je crois, sur une espèce de frontière où même les personnages, je crois que la seule exception c'est que quelqu'un s'approche, où il y a une construction, disons, plus traditionnelle entre guillemets, avec des personnages quand même plus dessinés, plus tenus à distance d'une certaine manière, plus incarnés, presque fruit d'une fiche de personnage ou d'une chose qu'il faudrait élaborer en vue d'un scénario, par exemple, même si c'est quand même pas tout à fait ça. Et puis, bon, simplement, c'est pareil, le temps passant et le travail s'affinant et s'affirmant, je vois bien que l'idée de départ, c'est-à-dire enfin, l'intuition de départ que ça ne m'intéressait pas beaucoup, cette histoire-là, ne fait que s'accentuer, bien sûr. Mais que simplement, le temps passant, ben, les moyens techniques à ma disposition pour essayer de régler cette question-là, ou en tout cas de la faire avancer, de la faire transformer et tout, ben, ils s'affinent, ils sont meilleurs, ils s'assurent, ils sont plus précis. Voilà. Et puis surtout, il y a aussi le fait qu'on se libère soi-même des questions, des questions qui nous encombrent et qui souvent, dont on est souvent les seuls à se les poser en réalité. Mais bon, après, il faut se débarrasser des obstacles qu'on se pose à soi-même. Si ça se trouve, cette question de trouver une voie médiane pour un personnage comme ça un peu indéterminé, j'aurais pu la passer par-dessus bord d'emblée et aller beaucoup plus vite. Bon, voilà, après, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, il me semble que je suis arrivé à une espèce de moyen, en effet, qui passe bien sûr beaucoup par le corps et par une espèce d'indétermination du personnage qui prend la parole, c'est-à-dire d'indétermination de la narration qui est délibérée. Mais je vois bien que c'est un truc que j'ai fait très progressivement, quoi. J'ai fait une première tentative de ça dans Le Corps des Anges, et puis ensuite j'ai un peu amplifié ça dans L'Amant des Morts, et puis etc., etc. Et effectivement, à partir des œuvres de Miséricorde, c'est beaucoup plus présent. Et puis je sais que c'est à peu près comme ça que je fonctionne, en tout cas pour l'instant, parce que ça correspond à ce qui me va bien, c'est-à-dire qu'au fond, c'est sans doute une autre manière aussi de faire place à autre chose que écrivant, c'est-à-dire d'autres jeux possibles, des jeux du passé, des jeux de l'avenir, voire, ou des jeux est un autre, pour reprendre le lieu commun, et aussi de petites communautés possibles ou de grandes communautés possibles. Et donc, explorer cette plasticité-là sans assigner d'identité trop précise, ça me correspond bien. Je pense que c'est vraiment cette voie-là que j'ai envie d'explorer, et que bien évidemment ça passe très bien par le corps, ça, parce que non seulement parce que ça m'intéresse, mais c'est parce que bien évidemment c'est le lieu où l'identité peut à la fois et vraiment dans le même temps être une, multiple, voilà, fragmentée, rassemblée, ouverte à l'autre, fermée, parce que toute la mise en jeu est possible beaucoup plus facilement et d'une certaine manière beaucoup plus radicalement que dans le discours.
Et c'est d'autant plus intéressant de trouver justement que cette importance du corps, cette présence du corps, elle intervient justement dans des œuvres comme Entre les deux, il n'y a rien, à partir des œuvres de Miséricorde, à teneur d'une histoire collective, une teneur vraiment plus politique.
Oui, bien sûr, les deux sont liés, bien sûr. C'est que d'un seul coup, là, ce que je disais, le réceptacle, d'une certaine manière, se fait plus ouvert et davantage capable d'accueillir précisément quelque chose de l'ordre du collectif ou du politique.
Mais c'est aussi parce que ces petites communautés dont tu parles, les petites communautés vivantes, c'est aussi, pour reprendre un petit peu ce que tu as dit sur Pasolini, qui est dans Entre les deux, il n'y a rien, c'est l'idée qu'il y a une possible libération par la rencontre dans le corps, par cette espèce de chose brute, de matière brute qui s'y déroule, et qui a, pour reprendre la question de tout à l'heure, qui est sans doute une portée bien révolutionnaire, enfin quelque chose qui, en tout cas, viendrait faire jalon, et qui, qui marquerait un moment où un moment de passage qui est sans possibilité de revenir en arrière. Enfin, c'est ça le.
Oui, bien sûr, c'est. C'est-à-dire que, de toute façon, le lieu physique de la rencontre avec l'autre, il est alors essentiellement par le biais de la sexualité, parce que ça m'intéresse de parler de ça, mais éventuellement ça peut prendre d'autres formes, mais c'est l'endroit où, au fond, la mise en danger de soi et par ricochet de l'autre est la plus grande au fond, et que dans la prise de contact du corps de l'autre, dans l'exercice, on peut dire, mais au sens exercice de patience, hein, dans l'exercice de l'amour, de la sexualité, on appelle ça comme on veut, on est non seulement en contact avec ses propres vertiges, qui sont évidemment des choses qu'on peut être amené à explorer seul, mais qu'on est d'autant plus amené à explorer quand on est confronté à l'autre, et on est confronté aussi au vertige de l'autre, et sans bien savoir où il se joue exactement. Et donc, tout l'enjeu de ce je sais pas comment appeler ça, de ce maillage qui se met en place comme ça entre deux corps, mais ça peut être entre 3 ou 4 ou 10 ou 15, comme je l'explique dans une nouvelle de Lisière du corps, c'est le même mécanisme est à l'œuvre, et que moi je me refuse à ne pas appeler communauté ça. Je pense que là, il y a une communauté, bien évidemment. Et il y a une communauté à deux, et y compris une communauté à 12. Alors évidemment, c'est toujours bizarre, parce que si vous dites, au fond, pardonnez-moi, mais une partouze, c'est quelque chose comme une communauté, ça, tout le monde rigole, mais enfin, on me dit, tiens, c'est bizarre de voir les choses comme ça, ils se foutent de notre gueule, etc. Mais simplement, il suffit de penser à encore une fois, au vertige qui est mis en jeu par chacun des corps, pour s'apercevoir que de la conjugaison de ces vertiges ne peut pas naître autre chose qu'une circulation entre des êtres, et c'est pas autre chose, la communauté, c'est la circulation entre les êtres. Alors après, évidemment, il y a la question de ce qu'on fait de ça, l'usage qu'on en a, les conséquences qu'on en tire, qui sont d'autres questions. Je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas importantes, hein, mais c'est un peu d'autres questions. Ce à quoi je m'essaye à décrire, c'est quand même ce premier chaînon, disons, voilà, ce premier assemblage. Et il me semble que si au moins on est passé par cette étape-là, c'est au moins quelque chose sur lequel on peut éventuellement bâtir les prolongements dont je parlais, ou les conséquences qu'on peut en tirer. Alors, je suppose, et puis heureusement d'ailleurs, qu'on peut aussi passer par d'autres voies. Moi, il se trouve que simplement cette voie-là, elle m'intéresse à explorer, parce que je pense que, encore une fois, l'exercice de la sexualité est aussi un endroit où on forme de la communauté, et c'est pour ça que donc ça n'est pas, contrairement à ce au discours dominant qu'on entend, une affaire strictement de la sphère privée, voire de la sphère individuelle, parce que finalement, je pense qu'il y a une espèce de, sans doute, l'onanisme, par exemple, serait probablement un mot d'ordre d'un rêve totalitaire. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là, comme ça, il n'y a plus aucun contact entre les corps et plus que de l'auto-sexualité. Voilà, bon, bref, excusez-moi, je divague. Mais bon, en même temps, voilà, on forme de la communauté là. Moi, je pense que ça vaut le coup d'explorer ça, quoi. Voilà. Et je n'ai pas l'impression que ce soit extrêmement exploré, donc je me dis, ben, tiens, je vais faire ça.
C'est vrai qu'en plus, par rapport aux revendications qui étaient en 68, donc notamment la libération par les corps, je pense qu'il y a quelque chose qu'il nous faut reprendre en main maintenant par rapport à notre époque. Si on pensait au transhumanisme, on peut penser quand même à cette idée donc du politique qui est complètement venu dans le corps et qui est devenu, qui a été objectivé. Et c'est ça et là, je pense qu'il y a quelque chose effectivement à reprendre en main sur ça et à pas laisser accepter en fait que dans le corps, à la fois le sien et à la fois celui de l'autre, il y a une limite. Et qu'on...
Oui, bien sûr, mais ça, c'est des questions très délicates qui sont en effet en embuscade, en réalité, derrière les questions, en effet, du transhumanisme, ou même des questions de génétique, de biologie, de voilà, ce qu'on appelle l'éthique en général, enfin... Elles sont en embuscade et je pense qu'en effet, il faut s'en méfier. Enfin, il faut y faire très attention, je pense. On a tout intérêt à y faire très attention. Et il me semble qu'on y fera d'autant plus attention que justement, on aura forgé nos propres armes avec nos propres corps dans ce dont je viens de parler, c'est-à-dire dans la pratique, dans la réflexion de ce que c'est son propre corps et comment on l'utilise et à quelle fin et pourquoi. Après, moi, je ne préjuge en rien d'aucune sorte de réponse. Hein. C'est pas pour dire il faut faire ceci plutôt que cela.
Ah, mais tes réponses restent humaines, si tu veux. Il y a pas cette idée en fait de faire par exemple un corps machine ou quelque chose. Enfin, tu vois qui
déshumaniserait,
désincarnerait complètement.
Là, je serais. Là, c'est des questions très complexes. Moi, je dis toujours que c'est quand même l'endroit où je réfléchis le mieux, c'est quand j'écris les livres, et je suis toujours... non, mais c'est vrai, j'ai toujours l'impression... Alors, je vais peut-être dire des énormités, mais tant pis, je vais y aller. je pense qu'effectivement, il faut être très vigilant, il ne faut pas se laisser déposséder de quoi que ce soit, et en particulier pas... d'une espèce d'entité première qui est tout simplement notre corps, qui est comme vous l'avez rappelé dans le texte là, notre réduit, notre liberté, c'est-à-dire que c'est quand même la seule chose qu'on a avec nous du début à la fin, et que si on ouvre trop la porte, ou si parce que j'allais dire de toute façon elles sont déjà ouvertes, donc en tout cas, il faut faire attention à tout ce qui va venir d'une certaine manière menacer l'intégrité de ce corps sous forme de pseudo-amélioration. Parce que ce qui porte atteinte au corps et qui fait déjà des dégâts considérables et dont il faut se méfier, ça on le sait tous, hein, c'est la violence, la guerre, l'oppression, y compris conjugale par exemple, toutes sortes. Ça on sait, ça porte atteinte au corps et ça on sait déjà qu'il faut s'en méfier. Et puis ce profil derrière, donc comme je disais en embuscade, dans le transhumanisme par exemple, dans toutes ces modifications comme ça qui se profilent à l'horizon, des possibilités de transformation qui se part des atours de l'amélioration, c'est le corps augmenté, c'est le voilà. Et alors là, moi, je ne vois pas. C'est là, je me risque peut-être à dire une énormité, mais je ne vois pas autre chose à avancer par rapport à ça que des notions ou des réflexions qui exploreraient l'aspect justement de ce qui est de l'ordre de l'intégrité corporelle, de la, je sais pas comment on pourrait appeler ça, d'une espèce d'aspect sacré mais profondément profane du corps, quoi. Voilà, sacré pas au sens religieux, quelque chose au fond qu'il faut gouverner soi-même en ayant présent à l'esprit toujours au fond une espèce de vision morale, lâchons le mot, de ce qu'on veut devenir.
Plus j'aime bien cette notion de sacré, parce que j'ai l'impression de... Enfin, quand on lit tous les noms de ces gens qui sont morts, qu'on nous a confisqués, qu'on voudrait nous faire passer pour des sacrifices alors que c'est des sacrilèges. Et... il y a cette idée que, je pense que la dernière fois, c'était Macron qui disait ça, il n'y a plus de sacré à l'intérieur de la société. Et je pense que justement, il y a moyen de réinsérer du sacré. Et par rapport, pour revenir sur l'idée du transhumanisme, c'est justement de penser que le sacré naît à partir du moment où on peut faire clôture. Et justement pas où c'est l'illimité, où on va augmenter, où on va changer. Mais non, il faut bien partir de cette condition en fait, qui est la condition humaine. En gros, c'est de dépasser la mort, enfin, l'idée du transhumanisme, des choses comme ça. Et justement, cette possibilité de remettre de la clôture, et de remettre aussi de la clôture dans les liens, et de remettre aussi de la clôture dans ce qui nous unit, c'est-à-dire les corps. Enfin, oui.
Mais le problème de clôture, c'est la connotation fermeture. J'entends bien ce que tu dis, mais ce qui me semble, parce que je pense que c'est vrai qu'il faut quelque chose de l'ordre de la clôture, mais on peut reprendre l'idée de porosité évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une clôture ouverte, enfin, je sais pas comment formuler ça, mais c'est-à-dire quelque chose qui n'empêche rien. Qui n'empêche rien d'advenir, mais qui permettent de protéger. Parce que je pense, par exemple, que une des choses que j'ai essayé d'explorer, sans doute assez maladroitement, dans les âmes inachevées, c'est cette idée que, par exemple, dans un certain nombre de, disons, génériquement, de pathologies psychiatriques, mais sans faire une désignation très plus précise que ça, mais il y a un sentiment d'abolition justement de la limite entre son propre corps et le monde extérieur, et qu'il y a une perte de repères, et donc là il y a quelque chose de très dangereux, parce que on est traversé et on traverse sans plus rien distinguer justement de ce qui nous distingue du monde et de ce qui fait de nous une entité dans le monde. Donc, il faut de la clôture, parce que trop d'ouverture, encore une fois, à mon avis, me perd, quoi. Voilà. Donc, je suis d'accord sur cette idée-là. Mais on revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut, savoir où est son corps, où il commence, où il s'arrête, à quoi on accepte de l'ouvrir. Et à quoi et à qui on accepte de l'ouvrir, et à quoi et à qui on accepte de le faire, enfin on refuse de l'ouvrir ou on décide de le fermer, quoi. Ça me semble qu'il faut jamais perdre ça de vue, quand c'est possible, naturellement, parce que il y a des tas d'occurrences, CF supra, le viol, la guerre, etc., où cette décision là elle est plus de notre ressort, parce que justement l'oppression, le pouvoir ou quoi que ce soit dépossède l'individu de son corps. Et pardon, je peux continuer un tout petit peu sur le tout ce qui est de l'ordre de la pression sur les corps des prisonniers de la fraction armée rouge dont je parle dans Entre les deux, il n'y a rien. C'est évidemment valable pour tous les corps emprisonnés, mais là il y a une espèce de raffinement, disons, mis en place par l'État allemand dans la répression des prisonniers de la fraction armée rouge.
La privation sensorielle.
Avec l'isolation sensorielle, l'alimentation forcée, etc. Où là, évidemment, l'oppression sur le corps, elle est massive, elle est d'une violence invraisemblable, et elle aboutit d'ailleurs au résultat désiré, à mon avis. Enfin, j'étais pas dans leur tête, mais c'est précisément l'abolition de la frontière, ou de la clôture, comme on voudra. Tiens, ma frontière, c'est peut-être mieux que clôture. et que cette abolition, l'abolition de cette frontière, elle est évidemment la meilleure solution pour conduire à la folie ou à la perte totale de repères. Cet aspect-là, auquel je ne fais qu'allusion dans Entre les deux, il n'y a rien, elle est très très bien explorée par Alban Lefranc dans Si les bouches se ferment, aux éditions Verticales.
Alors, ce que tu dis là par rapport à cette notion, voilà, cette ouverture, cette clôture, ça paraît assez intéressant à mettre en relation avec ton dernier livre, Lisière du corps, où quand tu expliques ton processus d'écriture, donc c'est de reprendre là où tu t'étais arrêté. Et là, du coup, la question que tu te proposerais, à laquelle tu te proposerais de réfléchir, ce serait entrer dans le corps de l'autre, mais pour y faire quoi?
Vas-y. Autre chose.
Nous, on se demandait particulièrement la place du sensible que tu accordes dans un accès à un entendement plus grand. Par rapport à cette question-là, comment elle se place? C'est-à-dire qu'entrer dans le corps de l'autre, donc on imagine un rapport en tout cas extrêmement sensible, enfin du moins très très rapproché. Ou jusqu'où cette opération du sensible comme accès à l'entendement peut aller dans un rapport tel que celui-ci?
Pas la moindre idée. Il faut que j'écrive le livre pour savoir. Mais c'est pas pour me défiler. Mais je, 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 J'écris les livres pour trouver des réponses aux questions que je me pose. Voilà, j'enfonce encore une porte ouverte. Je suis désolé, mais je ne sais pas justement. Je ne sais pas. Et en fait, là, en l'occurrence, c'est une allusion à une réponse que je faisais à une rencontre à Ombre Blanche la semaine dernière où on était ensemble. Et effectivement, la question qu'il y a derrière Lisière du corps, c'est où je dis que c'est un livre où j'essaye de m'approcher au plus près, encore une fois, du corps dans divers états, y compris du corps mort, et que ensuite la question, c'est en effet qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on décide de franchir cette lisière, ou est-ce qu'au contraire on décide de rester au bord ? Et si on décide de franchir cette lisière, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas la franchir sans s'être posé préalablement la question, histoire de ne pas être trop pris au dépourvu. Et puis, donc je n'ai pas la réponse à ça. Mais ce qu'il y a dans le... Ce que je veux dire aussi quand je dis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intrigue au moins autant que qu'est-ce qu'on fait quand on est... rentrer dans le corps de l'autre, c'est comment on l'écrit. Voilà, c'est ça surtout. Parce qu'encore une fois, bon, rentrer dans le corps de l'autre, ça nous arrive, intervalle plus ou moins régulier, mais l'écrire. Tout le monde est séché, là, excusez-moi.
Non, pas un gag, pas un commentaire, mais peut-être une citation qui rejoint un peu le propos là de tout ce qui se dit et qui questionne beaucoup. Donc, si jamais tu peux éclairer, c'est être tous les hommes n'est pas un rêve délirant de toute puissance. C'est accepter de n'être que ce qu'on est. C'est donner son consentement pour faire ce qu'on a à faire. C'est se fondre. C'est espérer le silence. Je pense qu'au niveau de la clôture, de la notion d'ouverture...
Oui, on est absolument dans cette histoire-là, quoi. C'est-à-dire qu'en tout cas, on ne peut prendre tous ces risques-là qu'on vient d'évoquer ensemble que si on sait, pas forcément même en détail, mais que quand même on a une idée suffisamment étayée de ce qu'on est, et encore une fois de nos lisières, là, pour le coup, pour reprendre le mot. C'est-à-dire de savoir, on reprend cette histoire de frontières, cette histoire de lisières, cette histoire de savoir où on commence, où on finit, et c'est, me semble-t-il, la condition pour pouvoir accepter de se fondre et éventuellement de se perdre, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des moments où c'est un risque qu'il faut prendre, le risque de la perte, parce que de toute façon... c'est comme ça que ça finira. Donc, on peut peut-être parfois tenter d'approcher quelque chose de cet ordre-là, qui sera bien sûr pas cette chose-là, mais quelque chose de cet ordre-là. Et il me semble que justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'exercice de la sexualité, là, c'est pareil, je ne suis pas le premier à le dire, mais le rapport très évident avec la mort, le besoin ou l'envie ou le désir ou l'espoir de disparaître, il est à l'œuvre à la puissance 1000 dans le rapport dans la sexualité, quoi, dans l'exercice de la sexualité, et que au fond il y a comme un apprentissage de ça, comme un apprentissage d'une perte à soi-même ou d'une absence transitoire à soi-même. Les mots trompent pas, hein, c'est pas pour rien qu'on désigne la jouissance petite mort, hein, on est au cœur du problème, une fois de plus les mots l'ont dit avant nous, enfin en même temps que nous. Bon, là cette fois j'ai complètement plombé, donc l'ambiance, voilà, merci beaucoup.